Chapitre 38. 21 juin 2011. Maline, en ce jour béni, je te fais deux cadeaux pourris. D'abord, mon patronyme. Avant de signer, je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, s'il n'y a pas une photo de toi à côté de ton nouveau nom, ils seront nombreux à froncer les sourcils. En numéro 2, je ne pourrai jamais me jeter un petit whisky derrière la cravate avec toi. Entre nous, ce sera amour et eau fraîche, éventuellement café, thé, soda. Mais promis, je pourrai réparer les choses, te construire des rêves, des maisons, des jardins, des meubles, des allées. Je ne suis pas sûre que tu aies gagné le gros lot en me rencontrant. Là où tu ne t'en tires pas trop mal, c'est que je n'aime pas les religions. Je peux donc me convertir à ce que tu veux, surtout à toi. Tu le sais, je pense que Dieu m'a abandonné quand j'avais 7 ans et il s'est sacrément bien rattrapé l'année dernière. Quant à la Sainte Vierge, elle ne m'a jamais abandonné. Elle ne s'appelle ni Myriam, ni Marie, mais Nathalie. Elle ne m'a jamais lâché la main et elle a toujours cru en moi. Je lui dois tout avant toi. Nathalie signifie naissance. Nat, tout aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je tiens à rendre hommage à mes parents. J'imagine ma mère dire à mon père là-haut « Comme elle est belle, la femme de notre fils !» et ne pas avoir prêté attention à ce que j'ai dit précédemment, pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas. Je rends hommage à mes sœurs chéries, Zeya et Fatia, qui font la fierté de notre famille de Bico. Deux grosses têtes pour supporter la mienne, brûlée. Tu parles d'un frère. Je remercie tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont partis. Enfin, je voudrais rassurer mes beaux-parents. Ne vous fiez pas aux apparences. Même si sur le papier ce n'est pas terrible, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Lynn soit heureuse. Et quand on est amoureux comme je le suis, on a des super pouvoirs. Lynn, mon amour, j'espère que nous aurons un marmot et qu'il te ressemblera comme deux gouttes d'eau. Merci de me faire confiance. Je ne pensais plus que quelqu'un pourrait me redonner des ailes. D'ailleurs, je ne savais même pas que j'en avais encore. Lies, mon amour, je prends tes deux cadeaux pourris. Je te prends tout entier. Et je suis si fière de porter ton nom que je vais l'écrire partout. Je vais le taguer sur tous les murs de Guignon. Les braves gens pourront dire « Encore un coup des Arabes ». J'espère que nous aurons au moins trois marmots. Peu importe à qui ils ressembleront, s'ils ressemblent à notre rencontre, s'ils sont lumineux comme tu peux l'être quand tu te fais confiance. Et je ne me jetterai pas de petit whisky derrière la cravate, avec ou sans toi, parce que je veux profiter de toi dans la clairvoyance. Je te trouve bien trop beau pour aller perdre mon temps dans des paradis artificiels. J'ai l'intention d'abuser de toi jusqu'à la fin de mes jours et de mes nuits, les yeux grands ouverts. Je te veux comme ce lundi où je t'ai vu entrer à la mairie de Flumet avec Agnès. Même que ce jour-là, tu m'as fait aimer le lundi pour toujours. Merci à Agnès qui a accepté d'être mon témoin. Je voulais que ce soit toi parce que je t'ai prise pour la femme de Liesse la première fois. En plus, tu es tombée dans les pommes dans mon bureau. Tu ne seras donc pas sa femme, mais le témoin de sa femme. Les gens m'ont dit « Mais Lynn, pourquoi vous vous mariez si vite ?» Tout simplement parce que Liesse est une évidence, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et sachez que nous serons des petits vieux tout rabougris ensemble. Nous avons de grands projets. Vivre dans la simplicité des jours, ici, en Bourgogne. J'ai remarqué que certains autochtones roulaient les airs. Alors promis, je vais m'y mettre. Merci à vous tous d'être près de nous. Merci à Zeya et Fatia pour leur accueil et leur bienveillance. Je suis fille unique, alors je gagne deux sœurs et un mari le même jour. Merci à toi, Liesse, mon amour, de me faire confiance. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait réparer les ailes des filles. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Liesse Othman Mansour et Mademoiselle Lynn Catherine Ozière unis par le mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Nathalie et moi nous levons ensemble pour signer le registre. Nous avons les jambes en compote et le rimmel qui coule. Nous embrassons les mariés au passage. Ils sont terriblement beaux. Anna prend place derrière le piano et interprète Yaraya de Rachid Taha avec quatre autres musiciens, dont deux instruments à cordes, deux percussions. Le chanteur possède une voix presque aussi belle que celle de Taha. Le métissage des harmonies est à l'image des mariés. À la demande de Lynn, ça fait des jours qu'Anna prépare cette pièce musicale dans le plus grand secret avec ses complices. Tous les invités se lèvent, embrassent et enlacent les mariés. Fatia, Zeya, Nathalie et les parents de Lynn dansent ensemble. Adèle, ses filles, Paul, Hervé et son fils, Antoine et moi dansons en tapant dans nos mains. Liès et Lynn se joignent à notre groupe. Nous mettons du temps à ressortir de la mairie. Personnellement, j'aimerais que cet instant s'éternise. Il fait beau aujourd'hui. La vie ressemble à un joyeux tourbillon, presque à une comédie romantique. La mariée porte du blanc et le soleil brille élégamment. Le marié a l'air flippé, mais sourit de son beau sourire. Je n'oublierai jamais ce que Liès m'a dit en rentrant de Flumet, alors qu'il ne s'était absolument rien passé entre lui et Lynn. Le plus dur, quand on rencontre quelqu'un, c'est de lui dire ce qui s'est passé. C'est un passage obligatoire qu'on n'a pas du tout envie de prendre. C'est pour ça que je ne me suis jamais éternisée avec une fille, pour ne rien avoir à dire. Mais je crois bien qu'avec Lynn, je vais vachement m'éterniser. Sur le parvis de la mairie, la voisine des Fredin, Cécile Aubert, compte parmi les invités. Je la regarde échanger avec Anna, qui porte une jolie robe noire. Elle a maquillé ses grands yeux clairs. Ma fille est sublime. La fête a lieu au foyer municipal que les jeunes mariés ont privatisé. Nous sommes une petite centaine. Nous marchons jusqu'au lieu de la réception. Antoine me frôle la main, me demande si le témoin se porte bien. J'attrape le bras de Louis. « Tu rêves, Louis ? Je suis content pour Liès. » Rue Pasteur, la cordonnerie est ouverte. Louis n'a pas besoin de passer par là pour penser à Colette, mais je sais que ça lui fait un pincement au cœur à chaque fois. Colette aussi, elle serait contente. Elle l'aimait bien. Oui. Le Steinway de papa trône toujours sur la scène du foyer. La plaque déposée par ma mère à l'entrée s'est ternie. Nous glissons tranquillement jusqu'à la soirée. Les gens se parlent, font connaissance, dînent debout, assis. Les portes sont restées grandes ouvertes. Ceux qui fument entrent et sortent, ceux qui ne fument pas aussi. Je m'isole un peu à l'extérieur pour écouter le brouhaha. J'entends les rires au loin. La place de Gaulle se trouve en face du foyer, plongée dans l'obscurité, là où le cirque de Soutkovski a autrefois dressé son chapiteau à deux reprises. J'imagine Blanche et Colette remonter la rue Saint-Pierre pour aller à l'école. Fatia me rejoint et m'extirpe de mes pensées. Je n'ai jamais fréquenté les sœurs de Liès. La grande était trop grande pour s'intéresser à nous et la petite trop jeune pour nous intéresser. Liès t'a raconté pour Charpie ? Je suis surprise qu'elle m'en parle et qu'elle connaisse son surnom. J'ignore ce qu'elle sait, ce que Liès lui a confié. Fatia a 8 ans de plus que Liès et quand il a été agressé, elle était adolescente. Je pensais que Liès ne l'avait jamais avoué à sa famille. J'ai d'ailleurs été très étonnée qu'il l'évoque pendant son discours. « Dieu m'a abandonnée ». Oui, il m'en a parlé quand je suis revenue pour gérer l'affaire de ma tante. Jamais quand nous étions adolescents. Elle semble réfléchir quelques secondes. Quand j'ai eu mon fils, Sohan, mon frère a été très heureux. C'est un super tonton. Il est attentionné, joue avec lui, le couvre de cadeaux. Comme on vit à Fontainebleau, on ne se voit pas plus de 3-4 fois par an, mais à chaque fois c'est vraiment chouette. Mais plus Sohan a grandi, plus Liès a commencé à avoir un comportement bizarre. Il m'appelait plusieurs fois par jour pour savoir comment il allait, ce qu'il faisait, si le petit ne s'isolait pas. Des trucs insensés. Je répondais, « Mais Liès, pourquoi veux-tu qu'il s'isole ?» Oui, mais est-ce qu'il pleure quand il va chez la nourrice? Qu'est-ce qu'il est en train de faire quand tu arrives chez elle? Bref, j'ai fini par ne plus lui répondre au téléphone. Un soir, à un dîner chez des amis, la conversation a dévié sur la famille. J'ai raconté, bêtement amusé, le comportement de mon petit frère trop protecteur. Ces questions incessantes que je trouvais loufoques. Une psy, qui était présente, m'a écouté attentivement. Elle m'a glissé à l'oreille à la fin du dîner que mon frère avait peut-être été victime d'une agression et qu'il faisait un transfert sur son neveu. d'où sa peur et ses questions obsessionnelles. Je n'ai pas voulu la croire. Ça ne pouvait pas arriver à une famille comme la nôtre. Je l'ai vraiment pensé. Et je ne l'ai jamais évoqué avec Lies, par honte ou par peur qu'il soit mal à l'aise. Fatia sort un paquet de cigarettes de sa poche, m'en propose une. Je réalise que c'est la première fois qu'elle me parle. Nous nous sommes croisés toute notre adolescence et on se saluait parce que notre trait d'union était Lies. Salut, ça va ? Bien, et toi ? L'année dernière, j'ai surpris une conversation entre Nathalie et Lies. J'étais chez mes parents avec Sohan, il faisait chaud, il était tard, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Ils revenaient de vacances à Nice, je ne sais pas pourquoi ils sont passés à la maison pour récupérer quelque chose. Avant de partir, Nathalie s'est assise dans le jardin pour caresser le chat des voisins qui squattait tout le temps chez nous, j'entendais leur voix depuis ma chambre. D'abord, Nathalie a dit « Tu te souviens, Sharpie avait un petit chien ?» Et puis j'ai entendu d'autres mots comme « jeune, timide, uniquement des garçons, toi ». J'ai reçu le débit incessant de Nathalie qui s'adressait à mon petit frère comme si j'étais la cible de tirs de mitraillette. Je savais parfaitement de qui elle parlait. J'avais fait un stage au service informatique de l'usine. Et c'était lui qui le dirigeait. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « savait-il que j'étais la grande sœur du petit qui l'avait agressé la même année ?» La réponse a pété dans ma tête, explosé même, un vrai coup de fusil dans la cervelle. Évidemment, il n'y a pas 36 Mansour à Guignon. Elias et moi, nous nous ressemblons. J'ai compris qu'il venait de le croiser à Cannes. J'ai pris la haine, comme diraient mes cousins. Une haine sans filtre, sans recul. À partir du moment où j'ai entendu Nathalie parler à mon frère, j'ai arrêté de réfléchir. Sharpie faisait partie du fichier de ma compagnie aérienne, avec adresse et numéro de téléphone. Je l'ai retrouvé en un quart de seconde. De toute manière, il ne s'est jamais caché. Il n'a jamais cherché à disparaître, malgré ce qu'il a fait. Il était même dans l'annuaire. Il a simplement quitté Guignon, Fissa, après un événement dont j'ignore les tenants et les aboutissants. Et basta. Jamais cet homme n'a été inquiété. Il ne pouvait quand même pas mourir de sa belle mort dans un lit. Je suis végétarienne. Je hais la vue du sang, je suis contre la peine de mort. J'ai toujours voté à gauche, sauf en 2002 quand il a fallu choisir entre Chirac et Le Pen. Mais je me suis dit que j'allais buter cette sombre ordure. Comme quoi, on trahit son intime conviction à tout moment. Je me suis revue dans son service, lui penché vers moi pour m'indiquer des formules à entrer dans l'ordinateur. Son parfum, ses chemises, sa bouche, son nez, son statut social, le bon Dieu sans confession. J'ai pensé que la même année, il avait violé mon frère de 7 ans et que je n'avais pas su le protéger. J'ai réservé un vol Paris-Nice pour la semaine suivante. J'avais l'intention de pénétrer chez lui en sonnant à sa porte, de maquiller un crime en suicide. Qu'allais-je utiliser ? Une arme à feu ? Des médicaments ? La défenestration ? Je n'en avais aucune idée. Je n'ai jamais pris le vol. On a retrouvé son corps quelques jours plus tard au large de Cannes. Il ne s'est pas fait assassiner par la stagiaire de l'année 79. J'ai ressenti beaucoup de colère quand j'ai découvert l'article relatant sa fin dans le journal, avec sa photo à côté. Il souriait. Un portrait de lui pris au stade un soir de match, l'équipe avait dû gagner. J'ai passé des heures sur des plans de Cannes. Et il n'a pas pu se suicider, c'est plat, on a pied partout. Il n'avait pas ingéré de médicaments, il n'y avait ni falaise, ni pont sur la mer. À moins que la mer ne soit venue l'emporter sur une grève, ou une jetée. En plein mois de juillet, difficile à croire. J'ai eu honte, Agnès. Honte de ne pas avoir fait le sale boulot. En mourant avant que je le retrouve, en mourant sans jamais avoir été jugée, il nous a fait un beau bras d'honneur. Elle écrase son mégot d'un coup de talon, et le récupère dans sa main. On va danser ? On va danser.
Zeya était née 3 ans après Lies. Son premier sourire avait été pour lui, ce tendre frère qui lui disait « Attends, je vais t'aider à construire le château. T'as froid, ma poulette ? Si on t'embête à l'école, tu me le dis, ok ? Il faisait toujours le tampon entre elle et sa grande sœur, Fatia, qui l'exaspérait car elle voulait sans cesse commander. La justice chevillée au corps, Zeya était devenue avocate pénaliste pour défendre ce qui paraissait indéfendable aux yeux de l'opinion générale. C'est ce qui l'animait. Fille d'immigrés, elle s'était battue comme une lionne pour avoir les meilleures notes à l'école, ne croyant jamais à la fatalité. Au début des années 2000, elle était la seule femme à avoir choisi le pénal plutôt que le civil dans la ville de Mâcon où elle était installée. Les prévenus se méfiaient des femmes, ne les pensant pas aptes à les défendre. Ils préféraient être représentés par des hommes. Elle avait longtemps plaidé pour de petits larcins comme avocate commise d'office. Les choses avaient changé dans une affaire d'homicide sur un gardien de la paix. L'accusé avait été acquitté, faute de preuves, grâce à la plaidoirie de Zeya. Une plaidoirie brillante et juste. Tout au long du procès, qui avait duré 3 jours, elle était intervenue pendant les débats d'une main de maître et avait semé le doute dans l'esprit des jurés, qui avaient préféré ne pas envoyer un potentiel innocent derrière les barreaux. 3 mois plus tard, le véritable coupable avait été arrêté. Depuis cet événement, toute la région voulait être représentée par Maître Mansour. Zeya avait toujours voulu défendre et représenter ceux qui ne pouvaient pas ou ne savaient pas s'exprimer. Elle n'avait pas compris pourquoi son frère avait subitement arrêté le football, alors qu'il était le meilleur, qu'il aurait dû faire une carrière sportive. Quand elle lui avait posé la question, il lui avait souri tristement. « Je vais partir. T'auras ma chambre », avait été sa seule réponse. Lorsque Liès avait quitté la maison, elle avait pris ce départ pour un échec personnel et pleuré pendant des semaines. En 2009, elle était dans l'ancienne chambre de Liès, quand elle avait entendu son frère et Nathalie échanger dans le jardin au sujet de leur mauvaise rencontre à Cannes. Zeya préparait ses dossiers à l'aide d'une lampe de poche pour ne pas attirer les moustiques. À la lumière des mots de Nathalie, Zeya avait compris l'origine du mal. Au collège, une amie lui avait dit que son frère se droguait, qu'on le voyait acheter sa dope chez un type pas fréquentable. Zeya avait répondu « Tu confonds, ça ne peut pas être lui. Ici, tout le monde confond un Algérien avec un autre Algérien. » Elle avait compris qu'il était parti s'adonner à ses addictions. Après avoir évité les flics in extremis, Liès ne voulait pas se faire arrêter avec de la cam sur lui, à cause de ses parents. Alors qu'avec n'importe quelle bouteille de n'importe quel alcool, il restait intouchable. C'était légal. L'alcool nourrit le chagrin. Avec les années, Zeya avait fini par admettre qu'il se mettait minable certains soirs et tous les week-ends. Elle avait bien vu sa gueule le dimanche midi quand il venait déjeuner chez les parents. Il se cachait les jours de congé pour se défoncer. Il voulait rester un fils irréprochable. Liès avait toujours fait semblant. Cette nuit de juillet 2009, en entendant Nathalie, Zeya avait immédiatement compris qu'il s'agissait de l'ancien chef de sa sœur à l'informatique. Elle se souvenait de lui, avait déjà entendu des histoires glauques le concernant. Un copain l'avait vu dans une voiture avec un très jeune homme, son fiancé, avait-il plaisanté. Ses mots l'avaient glacé. Elle n'avait pas dormi de la nuit, imaginant ce que son frère avait subi. Insupportable. Le lendemain matin, un dimanche, elle avait composé le 12, les renseignements. On lui avait donné l'adresse et le numéro de téléphone du type en question à Cannes. Elle avait réfléchi toute la journée, était allée chez son frère. Il avait été surpris de la trouver sur son palier. « Salut, maître !» « Tu fais quoi ?»« Je vais me baigner à Monceau. J'ai des amis de natte. Tu nous accompagnes ?»« Non, je pars quelques jours. Je voulais t'embrasser avant. »« Ah bon ? Tu vas où ?»« Je sais pas. Peut-être au bord de la mer. »« C'était bien, Nice ?»«
Top !»«
Chouette !» Elle l'avait serré dans ses bras un peu plus fort que d'habitude, et elle était partie. Elle avait senti son regard dans son dos. Il se tenait à carreau à présent, ne picolait plus, semblait plus stable, mais pas plus heureux. Elle avait longtemps pensé que Liesse et Nathalie entretenaient une liaison amoureuse. Elle avait longtemps espéré qu'ils rencontrent quelqu'un. Le lundi soir, à Cannes, quand l'ancien dirigeant était sorti de son immeuble, Zeya était au volant de sa voiture. Que faisait-elle là? Allait-elle se comporter comme ceux qu'elle représentait et que la société elle-même jugeait? Cela faisait quelques heures qu'elle était garée devant l'adresse qu'on lui avait donnée. L'allure de l'homme était reconnaissable entre toutes. Un haut le cœur l'avait subitement saisi en le voyant apparaître. Elle avait entrouvert sa portière pour vomir dans le caniveau. Quand elle avait relevé la tête, il était déjà loin. Merde ! Elle avait redémarré et l'avait suivi, de loin, au volant de sa voiture. Il avait marché jusqu'au Cap Croisette et s'était installé à la terrasse d'un café. Elle connaissait ce lieu. Il était venu avec une conquête 3 ou 4 ans auparavant. Elle ne se souvenait plus. Elle se souvenait rarement des dates. À ce moment précis, elle s'était demandé si elle aimait les femmes parce que son frère avait été agressé par un homme. Il n'y aurait jamais de réponse à cette question. Il attendait quelqu'un. Il avait consulté sa montre, souvent. Elle stationnait à contresens, observant les badauds, les mecs en short et les filles en robe courte. La police municipale s'était arrêtée à sa hauteur pour lui demander de dégager. Elle avait eu envie de leur dire « Au lieu de m'emmerder, allez voir le type là-bas, un type qui n'a jamais été inquiété et qui traverse dans les clous. » Mais elle l'avait fermé et s'était exécutée. Ne surtout pas se faire repérer. Elle avait fini par trouver une place, ce qui tenait du miracle. Elle était descendue de voiture. Il était toujours assis, sirotant son verre. Il était parti au bout d'une heure ou deux. Zeya avait perdu toute notion du temps. Lui avait emboîté le pas. À la hauteur d'un parking, un peu plus loin, alors qu'il marchait dans la pénombre pour rejoindre le bord de mer, une voiture avait déboulé d'on ne sait où et avait foncé droit sur l'homme. Le temps de réaliser, elle avait fait un pas de côté pour se cacher derrière un van. La voiture s'était arrêtée à 1 centimètre de sa cible. Zeya avait aussitôt pensé à son frère. C'était peut-être lui qui était revenu, au volant d'une Citroën immatriculée 71. Saône-et-Loire. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Elle n'était pas parvenue à distinguer le conducteur. Pourquoi son frère se serait-il arrêté au dernier moment, laissant le prédateur seul et ahuri? Le cœur de Zeya s'était mis à battre anormalement, comme s'il était en arythmie. La Citroën avait disparu dans la nuit, les abandonnant tous les deux, la sœur et le violeur. Elle avait marché jusqu'à lui d'un pas décidé. L'homme ne s'était pas encore remis de ce qu'il venait de vivre. « Toi, ce que tu viens de vivre n'est rien par rapport à ce que tu as fait vivre aux autres. Pour toi, ce sont les autres. Pour nous toutes, ce sont nos frères. » Zeya avait sorti un fer à repasser de son sac de plage. Le fer à repasser de sa mère, qu'elle avait emporté en quittant la maison. Préméditation. Il avait fait une drôle de tête, plissant les yeux, ne comprenant ni la présence de cet inconnu, ni l'objet incongru qu'elle pointait. Lui, le visage un peu déformé par la surprise. Une sorte de Picasso, mais en raté. Un truc qui n'existe pas. À l'âge de 7 ans, mon frère s'est brûlé avec un fer à repasser. Il nous a fait croire que c'était un accident, mais ça n'en était pas un. Zeya lui avait asséné un coup au visage, d'une force inimaginable, un bruit effroyable. Jamais elle n'avait frappé si fort. Jamais elle n'avait frappé tout court. Il était tombé sur le sol. La mer chuchotait à quelques mètres. La Méditerranée. Sa Méditerranée. Elle l'avait traîné. Plouf, prends-le, emporte-le. L'eau noire l'avait avalé. Idem pour l'arme du crime. Sa mère chercherait son fer partout, se demandant comment un tel objet pouvait disparaître. Une tempête allait se lever quelques heures plus tard, comme si la mer était sa complice. On retrouverait le corps bien plus loin. Zeya avait vu son frère se brûler. Il avait 7 ans, elle 4. Elle avait vu son geste, l'avait vu poser l'objet brûlant contre sa cuisse maigre. Il portait un short de foot bleu. Ses yeux noirs hébétés, observant la semelle chaude, s'enfonçaient en silence dans sa chair. Il n'avait pas crié. C'était elle qui avait hurlé. Ses parents étaient partis aux urgences. Lies, comme absent de lui-même, à l'arrière, s'était évanoui en chemin. Fatia avait gardé Zeya pendant ce temps-là. Et Zeya, elle, avait gardé le secret. Ce n'était pas un accident, mais une mutilation. C'est incompréhensible à l'âge de 4 ans. Elle avait pris cela pour un jeu dangereux, interdit. Une grosse bêtise de garçon. Quand elle avait entendu Nathalie parler dans le jardin, ce douloureux souvenir lui était aussitôt revenu. Lies avait parlé à ses sœurs après avoir rencontré Lynn, leur résumant comme si elles avaient toujours été absentes de sa vie, ses cures et ses combats, ses séjours à Garches qu'il avait sauvés grâce à Nathalie et à une force intérieure qu'il ne soupçonnait pas, et peut-être aussi pour que ce pourri ne le pourrisse plus. Il avait l'intention de vivre, enfin. Zeya n'avait rien dit sur ce qui s'était passé à Cannes et ne dirait jamais rien à personne. Plus que quiconque, elle continuerait à plaider au nom de l'innocence.